Donc je salue certains, je n'ai pas encore salué tout le monde, donc je vous apporte les salutations aussi de l'équipe de l'Institut biblique de Nogent, donc, où j'enseigne. Peut-être quelques mots d'introduction, parce que je trouve que c'est toujours plus agréable si on sait avec qui on est. Je suis née à Cologne, en Allemagne, j'ai grandi là-bas, donc avec la chance en fait de grandir dans une famille chrétienne où la foi donc faisait partie simplement de la vie quotidienne, et mes parents m'ont appris à lire la Bible pour moi-même. Je viens d'une famille pas de culte familial, ce qui est peut-être un peu particulier, mais mes parents m'ont appris à lire la Bible, et ça, je pense, ça m'a été même plus précieux, hein, peut-être le culte familial. Et j'ai grandi dans trois communautés à la fois, parce que j'allais pour le culte dans une communauté de tradition piétiste, pour l'école du dimanche dans une communauté baptiste, et ensuite j'ai fait mon catéchisme dans l'église protestante, donc luthéro-réformée. Et ça m'a permis de comprendre de suite en fait que le corps du Christ ne se limite pas à une dénomination, mais est composé de tous ceux qui croient vraiment à Jésus et qui s'orientent selon l'écriture. Donc j'ai fait des études de physique et de mathématiques ensuite à Cologne. Et je suis venue en France donc, pour faire mes études de théologie dans une perspective de service missionnaire. J'ai fait mes études à la faculté de Vaux-sur-Seine. J'ai ensuite travaillé 3 ans à l'Armée du Salut avant d'être appelée à enseigner à l'Institut biblique de Nogent. Et à ce moment, donc, j'ai compris que la France était ma terre de mission. Et donc, je suis donc en France depuis maintenant 20 ans, en fait. Et alors l'Auvergne ne m'est pas inconnue. En fait, j'ai passé une semaine de vacances, pas très loin d'ici, à Murat-le-Caire, donc au-dessus de la Bourboule. C'était un été mémorable. En fait, j'achevais la rédaction de ma thèse, et donc ma thèse de philosophie. Donc, j'ai soutenu une thèse de doctorat à la Sorbonne. Et je savais que je n'avais pas beaucoup de temps pour faire les vacances, mais je voulais quand même avoir une semaine. Et j'avais choisi de venir en Auvergne. Donc ça m'a rappelé de bons souvenirs quand j'ai revu tout à l'heure le château de Murol, qu'on avait aussi visité à l'époque. Mais bon, je ne suis pas venue pour vous parler de l'Auvergne, que vous connaissez mieux que moi. Mais donc, vous m'avez donné 3 sujets, hein, donc en lien avec l'apologétique. Donc l'apologétique qui est la défense, on peut dire raisonnée, de la foi chrétienne. Donc je ne vais pas vous faire une introduction à l'apologétique parce qu'on ne me l'a pas demandé. On m'a plutôt demandé de traiter 3 thèmes précis, hein, 3 questions qui sont souvent posées. Et donc j'espère vous apporter quelques éléments de réflexion par rapport à ces thèmes, donc par rapport au thème de la création cet après-midi, par rapport au thème de l'unicité du christianisme demain matin, et par rapport à la question du mal demain après-midi. Alors demain matin d'ailleurs je vous mettrai à contribution, donc cet après-midi, demain après-midi, ce sera plutôt un exposé, mais demain matin je vous obligerai à réfléchir vous-même aussi, à élaborer ensemble, hein, la réponse. Mais donc là pour cet après-midi je vous pose plutôt une conférence, et j'espère que nous aurons le temps à la fin d'avoir aussi un échange pour des questions, des prolongements. Mais donc avant de commencer, je dirais, mon exposé, je voudrais lire un texte biblique avec vous et prier aussi. Alors, donc, je vous propose un texte célèbre, hein, dans l'Épître aux Romains, Romains 1, à partir du verset 18, qui affirme justement que la création est visible, accessible, hein, à tout homme. Et nous allons réfléchir, hein, peut-être comment cela est le cas, malgré le fait, hein, et d'ailleurs le texte en parle, que beaucoup de gens refusent de reconnaître le Créateur. Alors, donc Romains 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu en effet se révèle depuis le ciel contre toute l'impiété et l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux. C'est Dieu qui pour eux l'a rendu manifeste. En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence les discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en ayant connu Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, en début de ce week-end, nous voulons confesser notre dépendance par rapport à toi, par rapport à toi qui est notre Créateur, dont nous tenons notre vie, tout ce que nous sommes. Et nous voulons aussi confesser notre dépendance par rapport à notre pensée. Et nous te prions que tu nous éclaires par ton esprit, que tu nous éclaires par ta parole tout au long de ce week-end, que tu nous aides à penser de façon droite, de façon juste, et de comprendre comment nous pouvons aussi rendre l'enseignement de ta parole plus facilement compréhensible à nos contemporains. Nous te prions que ce week-end nous aide à nous affermir dans notre propre foi et nous aide aussi dans le dialogue avec ceux qui ne te connaissent pas encore, ou en tout cas qui prétendent de ne pas te connaître. C'est au nom de Jésus que nous nous remettons à toi. Amen.
Amen.
Alors, comment croire en un monde créé? Donc, la création est un thème fondamental de la foi chrétienne. C'est la toute première chose dont parle la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et ce n'est pas un hasard, je dirais. Hein, si la Bible commence par là, c'est vraiment le fondement sans lequel notre foi est vaine. Et en même temps, c'est une doctrine qui est, ou une idée qui est très fortement attaquée. Donc, dès qu'on prononce le mot création, donc beaucoup de gens considèrent que de toute façon, là, ça arrive, donc on ne peut plus l'accepter. Si on est scientifique, on sait depuis longtemps que la science a montré que le monde n'est pas créé. Donc souvent, d'ailleurs, on va opposer donc des théories scientifiques comme le Big Bang, comme l'évolution à la création. Et donc, je dirais, le fondement même de la foi biblique est souvent rejeté. Et d'ailleurs, il me semble que ce rejet est si efficace, on pourrait dire, que même les chrétiens n'osent plus tellement, peut-être à part quelques fondamentalistes, d'affirmer leur foi en la création. Et donc, que faire, je dirais, pour... Alors déjà, pour nous affermir donc dans notre propre foi en la création, et ensuite aussi, comment l'expliquer, comment dialoguer avec ceux qui la rejettent. Et d'ailleurs, ce dialogue donc, avec l'incroyant qu'entreprend l'apologétique, je pense que c'est très souvent d'abord l'incroyant aussi en nous. Donc, comment nous-mêmes nous rendons plus assurés notre foi. Et ensuite, bien sûr, comment argumenter envers d'autres. Alors, en ce qui concerne la création, donc je vais vous proposer 5 pistes donc, par rapport à ce thème. Alors ça n'explore pas toutes les pistes, ça ne répond pas à toutes les questions, mais en tout cas 5 pistes que je trouve importantes. Alors, le premier point qui pour moi est absolument essentiel, c'est de bien expliquer la doctrine de la création. Et alors... Vous allez comprendre sous peu pourquoi j'insiste sur ce point. Je vous affiche là une définition de la doctrine de la création donc qui vient d'un ouvrage de théologie réformée, en fait, de Louis Berkhoff. qui donne cette définition et qui, alors qui n'est rien d'original, hein, j'aurais pu prendre d'autres ouvrages. Cette définition donc dit « La création au sens strict du mot peut être définie comme cet acte libre de Dieu par lequel il a produit au commencement tout l'univers visible et invisible à partir de rien et ainsi lui a donné une existence distincte et pourtant toujours dépendante de lui. » Alors, c'est une définition riche. Normalement, donc, dans mes cours de doctrine à l'Institut, donc, je travaille en gros 2 heures avec mes étudiants sur cette définition. Hein, donc je ne vais pas le faire avec vous ce soir, rassurez-vous. Hein, on m'a déjà donné la consigne que je vais respecter le temps qui m'est alloué. Mais je voudrais attirer votre attention sur plusieurs aspects de cette définition et plusieurs aspects qui me paraissent en fait importants quand on est en dialogue avec déjà avec nous-mêmes, mais donc en dialogue aussi avec ceux qui ont des difficultés à accepter la création. Donc, alors, le premier point que je voudrais souligner, en fait, la création désigne l'origine ultime du monde. Dans cette définition, on parle de la création, de cet acte Dieu qui produit au commencement tout l'univers visible et invisible à partir de rien. Donc, ce qui est en vue, en tout cas, d'abord et avant tout, c'est l'origine ultime du monde. Donc, ce n'est pas d'abord une question de l'évolution à l'intérieur de ce qui existe déjà. Et dans ce sens, par exemple, la théorie biologique de l'évolution travaille toujours déjà avec de la matière préexistante. Donc, la création pose la question de l'origine ultime. D'où vient même ce sur quoi la science peut ensuite travailler. Alors, vous avez noté que cette définition ne dit rien sur les processus de la création. Alors, bien sûr, il y a la précision à partir de rien, qui vaut là pour le commencement absolu, on pourrait dire pour le tout premier commencement, mais cette définition n'exclut pas du tout divers processus que les créateurs auraient pu utiliser. Et d'ailleurs, quand on retourne dans Genèse 1, il est frappant de voir dans Genèse 1 et 2, que différents processus sont effectivement utilisés. Donc vous avez la création par la parole, donc Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc vous avez la création par la parole. Mais vous avez aussi plus loin, par exemple, cet ordre que Dieu donne à la terre de produire des plantes. Que la terre produise les plantes. Ou, encore un peu plus loin, que les eaux grouillent des animaux marins. Donc, manifestement là, ce n'est pas la création par la parole directe, mais il y a un processus qui inclut, d'une certaine façon, ce que Dieu a déjà créé. Donc, ça ne remet pas en cause l'origine ultime du monde en Dieu, parce que tout ce qui existe vient de Dieu, mais effectivement ce processus de création peut être direct ou indirect. Alors, un troisième point qui me paraît important à souligner, c'est que la Bible n'emploie pas de langage scientifique, tout simplement parce qu'elle doit être compréhensible pour des personnes de toutes les cultures et de tous les âges. Donc, exiger de la Bible d'employer un langage scientifique du XXe ou du XXIe siècle, en fait, c'est un non-sens quand on se rend compte que la Bible, déjà a été écrite dans un contexte culturel donné, et aussi veut être un message pour tout homme. Et donc, si elle employait un langage qui serait seulement accessible, compréhensible, avec une connaissance de la science moderne, elle ne serait pas compréhensible déjà pour une bonne partie de l'humanité encore aujourd'hui, elle n'aurait pas été compréhensible il y a 200 ans ou 500 ans. Alors, ayant dit cela, c'est une affirmation qui est en même temps un peu dangereuse, parce que assez souvent, on en déduit que la Bible ne touche pas du tout à des sujets qui relèvent de la science. On exclut ainsi, en fait, tout conflit possible. Je ne pense pas que ça soit acceptable. Déjà, ce n'est pas acceptable parce que la Bible est la parole de Dieu, et donc est vraie dans ce qu'elle enseigne. Et vouloir la contourner, hein, la limiter au domaine religieux, au domaine spirituel, ça serait en fait, ou ça reviendrait en fait à limiter la souveraineté de Dieu, et de dire, bon, ok, la Bible, quand elle parle de Dieu, de la religion, de la foi, bon là elle est vraie, mais quand elle parle de la science, là elle n'est pas vraie, ou en tout cas elle peut ne pas être vraie, ça serait en fait limiter, hein, sa portée, son enseignement à un domaine, mais Dieu est le Dieu de toute la réalité, il est le créateur donc aussi de ce monde, et donc on ne peut pas arbitrairement limiter ce que la Bible enseigne à des domaines dont la science ne parle pas. Et d'ailleurs, c'est aussi très insatisfaisant du côté scientifique parce que la science elle-même donc, progresse constamment et les domaines qui étaient autrefois le domaine de la religion sont devenus des domaines sur lesquels la science parle. Hein, prenons l'âme humaine, par exemple. Hein, pendant longtemps, on considérait que c'était l'objet du discours religieux. Ben, aujourd'hui, les neuroscientifiques s'intéressent à l'âme. Et donc... propose d'ailleurs certaines idées à ce sujet. On ne peut pas dire que la Bible voilà, ne parle que du domaine spirituel. Donc je pense qu'il faut absolument maintenir que la Bible est entièrement fiable quand elle se prononce sur des sujets scientifiques, mais il faut bien se rendre compte que la Bible ne parle pas, n'emploie pas de langage scientifique, et d'ailleurs je ne pense pas non plus que son intention, en tout cas pas son intention première, serait de nous enseigner les sciences de la nature. Et un dernier point qui me paraît important dans le dialogue avec les non-chrétiens donc, par rapport à l'évolution en particulier, parce que souvent la création pose problème par rapport à l'évolution, c'est de souligner que les chrétiens adoptent des positions différentes quant à l'évolution. Et d'ailleurs, il faudrait s'entendre sur le mot chrétien. Là, je parle, disons, j'aurais pu dire les chrétiens évangéliques, hein, ou les chrétiens qui veulent être fidèles à l'Écriture. Parce que, bien sûr, vous avez, dans la chrétienté au sens large, hein, vous avez toutes les positions possibles et imaginables, mais sur à peu près n'importe quel sujet. Hein, parce que nous vivons, hélas, à une époque où beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ont pris des libertés par rapport à la révélation, donc par rapport à la révélation biblique. Donc je ne parle pas de cet aspect-là, mais je parle seulement de ceux hein, qui maintiennent donc une conviction forte de l'autorité de la Bible, de son inspiration, de l'autorité de son enseignement. Et quand vous regardez hein, donc à l'intérieur de ce monde, hein, donc des chrétiens évangéliques, on pourrait dire. Donc, vous trouvez en fait des positions très différentes. Alors, moi, je travaille dans le cadre du. Je suis impliquée dans le réseau des scientifiques évangéliques qui est adossé au GBU. Et nous avons un certain nombre de biologistes dans notre comité. Je crois que tous les biologistes que nous avons sont des évolutionnistes convaincus. Vraiment convaincus, darwiniens, donc comme on se le représente. Et en même temps, maintiennent tout à fait une soumission entière à l'Écriture. Alors vous avez des positions, on pourrait dire, un peu intermédiaires, donc des gens qui acceptent une certaine mesure de processus évolutionnaire, mais qui pensent qu'il y a quand même certaines interventions miraculeuses de Dieu, donc à différents seuils décisifs, par exemple pour la création de l'humanité. Et vous avez, hein, donc, je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche, non, peut-être plutôt à droite, donc vous avez ceux qu'on appelle les créationnistes, qui maintiennent une lecture littérale du début de la Genèse, et donc qui considèrent que le monde donc, a été créé en 6 jours, 2, 24 heures, avec donc une création spéciale des espèces. Et... ce qu'il paraît important là de bien comprendre entre ces différentes positions, ce qui est en jeu n'est pas en fait l'autorité du texte biblique, mais la compréhension du texte biblique. Donc le désaccord porte sur la compréhension hein, de Genèse 1 et 2 en particulier. Mais ça me paraît donc important à souligner qu'il ne faut pas, je dirais, partir d'office sur une opposition création-évolution. Et ce point me paraît important dans le dialogue parce que cette opposition création-évolution, je dirais, est maintenue à la fois par, disons, par certains, on pourrait dire, athées militants, donc le nouvel athéisme, comme on l'appelle, bon, je ne sais pas si les écrits de Richard Dawkins vous disent quelque chose, donc il trouve dans la théorie de l'évolution un argument de force contre la foi en Dieu. Et en même temps, cette opposition entre création et évolution est aussi maintenue par ce qu'on appelle les créationnistes. Je n'aime pas trop le terme parce que je suis aussi créationniste, parce que je crois à la création, même si je ne crois pas à la création en 6 jours de 24 heures. Mais bon, ce qu'on appelle couramment les créationnistes. Donc, eux considèrent aussi qu'il y a une opposition entre création et évolution. Voilà. Je ne vais pas cacher ma propre opposition, donc je pense que c'est une opposition à laquelle il faut résister, donc qui est fausse, qui est erronée. Et en tout cas, il faut reconnaître que les chrétiens ont des compréhensions différentes et que le noyau de ce que ça veut dire que le monde est créé n'est pas touché en fait par cette question. Donc il faut distinguer entre l'affirmation que le monde est créé par Dieu et les modalités de la création. Et je crois que si on réussit à expliquer cela, on a déjà éliminé un obstacle, je dirais, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la science, on a éliminé un obstacle. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément croire que le monde est créé par Dieu, mais au moins on a éliminé un obstacle. Donc, premier point qui pour moi est important, c'est de bien expliquer la doctrine de la création. Alors, le deuxième point, et là, pour dire sur le premier point, on a essayé d'éliminer un obstacle. Maintenant, on va essayer, on passe un peu plus à l'attaque. Donc, viennent maintenant des arguments positifs en faveur donc, de la création. Et il me semble important ici de souligner qu'il y a des questions auxquelles les théories scientifiques elles-mêmes ne répondent pas. Et d'ailleurs, des questions auxquelles, on pourrait dire, l'athéisme courant ou l'agnosticisme courant ne répond pas. Alors, je vous donne un certain nombre de questions qui sont assez classiques. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Donc ce n'est pas la question comment, je dirais, comment ça se fait que moi je me tiens devant vous aujourd'hui. Donc là je peux faire une reconstruction causale, je peux remonter, je ne sais pas, mes parents, bon, voilà, on remonte, et bon, si la théorie de l'évolution est juste, on remonte jusqu'à la première cellule vivante, et ensuite on remonte, alors, d'ailleurs là, personne ne sait comment on remonte, au-delà de la première cellule vivante, et il n'y a pas de théorie actuellement, ou pas de scénario qui aurait une quelconque probabilité, c'est quand même aussi intéressant à noter. Mais bon, donc, je vais dire, on peut remonter, si vous voulez, jusqu'au Big Bang, mais bon, il y a toujours le fait même qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Et à mon sens, il y a deux façons de répondre à cette question. À mon sens, il y a deux façons. Donc, la première façon, c'est effectivement d'accepter qu'il y a un créateur. Donc de dire, bon, s'il y a quelque chose plutôt que rien, c'est parce qu'il y a un créateur. Et l'autre façon de répondre serait, à mon sens, de refuser la question. Et de dire, la question ne fait pas sens. Ou je refuse de la poser. Donc je vais revenir sur cette approche tout à l'heure. Je ne vois pas très bien quelle troisième option on aurait. Donc, il me semble, soit il faut accepter la question et à ce moment... tôt ou tard, donc on va remonter jusqu'au créateur, ou on refuse la question. On peut, mais si on l'accepte, je pense que la foi dans le créateur est assez inévitable. Alors, deuxième question, pourquoi le monde est-il ordonné ? Voilà, c'est la physicienne, disons, moi qui parle, donc cette fascination devant l'ordre de la nature me montre. Je la laisse tomber. C'est l'expérience qu'on pourrait peut-être faire. Sauf que cette expérience vous ennuie terriblement parce que vous connaissez le résultat. Et bien sûr, je ne vais pas faire l'expérience parce que moi aussi, je connais ce résultat et je tiens à ma montre. Donc, je ne venais pas faire l'expérience, mais vous êtes tous convaincus que si j'avais lâché ma montre, hein, elle serait tombée. Et elle serait tombée, d'ailleurs, même pas n'importe comment, mais en suivant les lois de la gravitation. Alors, ce serait un peu compliqué à calculer, parce que c'est un objet macroscopique, il y a la pression de l'air, voilà, hein, donc le calcul n'est pas facile à faire, mais en principe, on peut le faire. Et c'est quand même frappant. Et nous avons pris tellement l'habitude qu'on n'y réfléchit plus. Mais pourquoi le monde suit des lois qui, en plus, on peut écrire sous forme mathématique? Là aussi, à mon sens, il y a deux réponses possibles. Soit je refuse la question, je dis « j'y réfléchis pas ». Voilà, donc c'est comme ça. Soit j'accepte la question. Il y a peut-être quand même deux possibilités. Vous pouvez soit être panthéiste, comme Einstein l'a été, hein, donc de dire finalement d'admirer la rationalité de la nature avec un sentiment quasi religieux, hein, donc de, si vous voulez diviniser hein, la nature, soit donc, vous acceptez qu'il y a un législateur hein, donc qui effectivement donne cet ordre à la nature. Et d'ailleurs, j'étais frappée, donc, j'ai récemment discuté avec quelqu'un qui avait fait des études de biologie et qui bien sûr commençait à me sortir hein, l'argument « mais aujourd'hui on sait expliquer, autrefois les gens avaient besoin de croire en Dieu parce qu'ils ne connaissaient pas les explications hein, des phénomènes naturels que nous connaissons aujourd'hui ». Et ensuite je lui dis mais ces explications, ces lois, elles viennent d'où? Elles s'appuient sur quoi? Qui a donné ces lois? Et j'étais frappée d'ailleurs que ça donne rien qui lui parlait. Elle a dit oui, je n'ai jamais réfléchi à ça. Ce qui montre d'ailleurs aussi que je pense beaucoup de nos contemporains ils n'ont jamais vraiment approfondi. Il faut déjà parfois les titiller un peu pour qu'ils aillent un peu plus loin dans la réflexion. Alors, une troisième question qui est liée à la deuxième, c'est pourquoi l'homme peut-il comprendre l'ordre de la nature? Parce que ce qui est frappant, ce n'est pas seulement qu'il y a un ordre, mais que l'homme peut décrire cet ordre. Et d'où vient cette connivence entre l'esprit humain et l'ordre de la nature? Et là aussi, je pense que la meilleure réponse, il y a d'autres réponses, mais je pense que la meilleure réponse, c'est de dire que Dieu est le créateur à la fois de l'esprit humain et de la nature, et ça explique cette correspondance ou cette connivence. Alors, une quatrième question qui est assez différente des trois premières, c'est la question de la distinction entre le bien et le mal. Comment distingue-t-on entre le bien et le mal? Et ça, je trouve que c'est intéressant de s'arrêter sur cette question-là, parce que spontanément, je pense, les gens pensent savoir, donc qui est une distinction entre le bien et le mal, et ce qui est bien, ce qui est mal, mais quand on pose la question des fondements, il n'est pas évident, en tout cas, je dirais, de donner une autre réponse que la référence à la loi de Dieu. Évidemment, vous pouvez dire, bon, il y a d'autres réponses possibles, hein, donc on pourrait dire, ok, le bien et le mal, c'est les conventions, c'est la société qui se met d'accord. Hein, donc on s'est mis d'accord de rouler à droite. Ben, on roule à droite, et donc c'est mal de rouler à gauche. Sauf, je ne sais pas si on utilise le même mot, je vais tout de suite prendre un exemple extrême. La société allemande, ou en tout cas une certaine fraction de la société allemande, s'était mise d'accord qu'il était bon de tuer les juifs. Est-ce que pour autant c'était bon de tuer les juifs? On sent que là, il y a quand même des lois qui dépassent la convention qu'on a passée, je dirais, hein, donc les accords dans la société. Alors, bon, alors peut-être d'autres vont dire, bon, est bon ce qui aide à la survie de l'homme. Donc il faut soutenir la vie. Bon. Déjà, c'est pas toujours évident de savoir, parce qu'on peut avoir des conflits, hein, donc, où une vie c'est contre une autre, mais surtout, si je dis est bon ce qui permet ou ce qui promeut la vie, j'ai donné en fait une valeur à la vie, ou à la vie humaine, ou d'ailleurs à la vie tout court, hein, ça dépend de votre système. Mais pourquoi? Qui me dit que c'est bon, hein, par exemple, restons avec l'homme, qui me dit que c'est bon que l'être humain continue à vivre, hein? Donc vous avez d'autres systèmes moraux, justement, il est bon de faire une sélection, hein, au sein de l'humanité. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question théorique. Hein. Aujourd'hui, elle se pose dans notre société par rapport à la vie handicapée. Il y a des gens qui défendent qu'il vaut mieux que les handicapés ne vivent pas. Et donc, il faut donc avorter. Ce n'est pas, c'est pas une question théorique. Donc, je veux dire, qui me dit hein, que la vie vaut la peine d'être vécue, et quelle vie? Alors, satanisme, c'est la science qui nous le dit. Hein. Mais non, non, la science décrit ce qui est, et ne dit pas ce qui est bien. Elle nous donne des moyens pour faire le bien et le mal, elle ne dit pas ce qu'est le bien et le mal. Alors, je pense de nouveau, j'ai deux façons, donc, une fois que je me suis rendu compte hein, du problème, je pense qu'il y a deux façons de répondre à la question. Donc, soit se verser dans un relativisme, et de dire, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité morale absolue. Mais est-ce vraiment une position soutenable? En tout cas, je me dis peut-être le jour où un relativiste moral est confronté à quelqu'un qui veut le mettre à mort, est-ce qu'il va continuer à dire, oui, tout est relatif, donc l'autre a un autre système de valeurs, dans ce système de valeurs, c'est bien qu'il me tue? Non, je ne pense pas. Hein, donc fondamentalement, nous sommes quand même convaincus, hein, au plus profond de nous-mêmes, nous sommes convaincus qu'il y a bien des absolus. Aussi par rapport à la morale. Donc le relativisme n'est pas une option, et donc je crois que l'autre seule option que j'ai, c'est en fait la foi en Dieu hein, qui me donne ces absolus. Alors, dernière question, quel est le sens de la vie? Là aussi, ce n'est pas la science qui me le donne. Et de nouveau, moi, je ne vais pas recommencer mon petit argumentaire, de nouveau, donc je pense qu'au final, j'ai le choix entre considérer que la vie n'a pas de sens, mais est-ce qu'on peut vivre avec cette option? Ou de dire que le sens de la vie dérive hein, d'une transcendance qui donne ce sens. Donc, voilà, un certain nombre de questions auxquelles la science ne répond pas et auxquelles, justement, la création répond. Un troisième point, alors là, ça devient un raisonnement un peu en biais. Alors, j'espère que vous allez me suivre, parce que c'est un peu tordu comme façon de raisonner. En fait, ce qui me paraît intéressant dans le dialogue avec certaines personnes donc, qui continuent à maintenir qu'il y a opposition entre évolution et création et que l'évolution exclut l'idée de création, c'est de leur montrer qu'une lecture idéologique, ce que j'appelle une lecture idéologique de la théorie de l'évolution, que certaines conséquences donc, sont inacceptables, hein, même pour l'athée. Et donc, s'il veut utiliser l'évolution, je dirais plutôt sans sa compréhension de l'évolution, comme argument contre la création, en fait, il se retrouve dans des positions que, fondamentalement, il ne veut pas défendre. Alors, un premier exemple, donc j'espère que ça va devenir plus clair quand je vais vous donner des exemples. Parfois, hein, on peut entendre l'argument que l'évolution exclut ou contredit la foi chrétienne parce que la foi chrétienne affirme une particularité de l'être humain, que l'homme est une créature à part, créée à l'image de Dieu, alors que l'évolution nous montre, que la biologie nous montre que l'être humain est un primate et qu'il y a une transition donc continue entre les grands primates et donc que l'homme donc finalement en fait est un primate parmi d'autres et donc j'ai eu l'occasion d'ailleurs c'est assez marrant hein, j'ai eu l'occasion de visiter un tout petit musée à Pékin dans un institut de paléontologie qui présentait les données les fossiles autour de l'évolution et dans les textes explicatifs c'était très frappant qu'on essayait toujours de montrer que l'homme était un animal parmi d'autres. D'ailleurs, dans la façon même de formuler les choses, hein, donc, l'homme était un animal voilà, parmi d'autres. Et donc, beaucoup d'ailleurs hein, prennent l'évolution donc, comme enseignant cela. Alors, je dis que c'est une lecture idéologique parce que la biologie décrit ce qui est, elle ne me donne pas les valeurs. Alors même s'il y a, s'il y avait, alors je ne vais pas rentrer dans les données scientifiques là, mais même si on accepte la reconstruction de l'origine de l'humanité telle que la science la présente aujourd'hui, cela ne veut pas encore dire que l'être humain n'est pas un être à part. Donc en fait, la biologie pourrait seulement nous l'enseigner si la biologie permettait de tout dire sur l'homme. Donc ce qui est derrière, c'est l'idée que, bon, si j'ai décrit les origines biologiques de l'homme, j'ai déjà tout dit sur l'homme. Mais si justement l'homme est l'être créé à l'image de Dieu, la biologie n'épuise pas en fait la description de l'homme. Et donc, il y a bien une autre dimension qui n'est pas accessible à la biologie. Mais alors, sans développer cet argument-là, il me semble intéressant à montrer que même la thèse, hein, qui s'appuie sur l'évolution, ne peut pas finalement accepter lui-même sa propre théorie ou ses propres conséquences. Parce que, bon, c'est vrai, certains ont dit que l'homme est un sage habillé, mais essayer de vivre avec cette option. Est-ce que ça veut dire que l'homme n'aurait pas de responsabilité morale? C'est vrai, vous n'allez pas faire procès hein, à un singe. Je veux dire, un singe qui se comporte mal, on va le brider, on va le tuer, on ne va pas le traîner devant la justice et l'enfermer en prison. Non. Il y a des unités uniques. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui plaident pour qu'on accorde les mêmes droits aux chimpanzés qu'aux hommes. C'est vrai. Et la plupart des gens considèrent que certes, il faut bien traiter les chimpanzés, hein, donc il ne s'agit pas de les maltraiter, mais qu'il y a quand même une différence. Et que quand il s'agit, par exemple, de savoir si on peut tester un médicament sur des chimpanzés, dans certaines conditions, on considère que c'est possible. Donc, pour le bien-être des humains. Et je dirais même, plus fondamentalement, si l'homme n'est qu'un singe habillé, ça veut dire qu'il n'a pas de volonté libre, qu'il n'a pas de liberté, qu'il ne peut pas prendre des décisions, mais essayer de vivre avec une telle conception. Vous êtes obligé de faire des choix. Donc, de toute façon, j'ai cette idée que l'homme ne serait qu'un animal parmi d'autres, ce n'est pas acceptable, on ne peut pas vivre avec cette position. Alors, donc tous les aspects de l'existence humaine ne se laissent pas déduire de la science, ou réduire la science, hein, donc j'ai donné quelques éléments, la créativité artistique, les relations interpersonnelles, peut-être juste sur le deuxième point, donc les relations interpersonnelles, la science a une méthodologie particulière qui exclut, disons, en tout cas qui essaie jusqu'à un certain point de faire abstraction du personnel. Donc, quand je fais une expérience, je réduis, disons, l'entité sur laquelle je fais l'expérience à une chose, à un objet. Et, par exemple, je vais répéter l'expérience pour vérifier. Mais essayer d'appliquer la méthodologie scientifique dans le cadre des relations interpersonnelles. Vous rencontrez quelqu'un, vous commencez à nouer une amitié, et ensuite vous dites, oui, mais moi je suis quand même scientifique dans l'âme, donc il faut que je fasse des expériences. Parce que qui me dit que la parole qu'il me dit est vraie? Alors donc je vais tester. Je vais le mettre dans des situations dans lesquelles je peux tester si sa parole est vraie. Et donc, bien sûr, en tant que bon scientifique, il faut que je répète cette expérience. Et que non seulement moi, mais un de mes collègues doit faire l'expérience. C'est important. J'ai un résultat qu'un seul scientifique produit ne vaut rien en science. Il faut que d'autres équipes puissent vérifier. Bon, je pense que cette personne ne va jamais devenir mon ami. Donc, il y a, je dirais, il y a quelque chose à la rencontre personnelle qui est, alors peut-être pas l'opposé, mais en tout cas qui est très différent de la démarche scientifique. Et donc, il ne faut pas penser que la relation interpersonnelle sera accessible donc, à la description scientifique. Il y a des dimensions qui le sont. Alors, bon, prenons la rencontre amoureuse. Bien sûr, je peux analyser les sentiments amoureux, disons, par des méthodes biochimiques, hein, parce qu'il y a des processus hormonaux, etc., qui se passent, mais ce serait ridicule, et je pense que tout le monde accepterait de dire que c'est ridicule de vouloir réduire la rencontre amoureuse à cette description biochimique. Et pourquoi, ce qui est ridicule d'ailleurs pour la rencontre entre deux hommes, hein, serait mieux pour la rencontre entre l'homme et Dieu, hein, qui est aussi une rencontre entre deux personnes. Et donc quand vous entendez des neuroscientifiques, c'est un peu un autre domaine, hein, les neuroscientifiques, certains disent qu'ils ont prouvé que Dieu n'existe pas parce qu'ils ont montré qu'il y a des processus qui se passent dans le cerveau, hein, quand les gens font des expériences religieuses, et on est, c'est du même niveau, je dirais, c'est de dire parce que j'ai réussi à proposer une analyse biochimique du sentiment amoureux, que j'ai prouvé que ce sentiment n'existe pas et que ça ne vaut pas le coup de vivre une relation amoureuse. Hein, c'est du même ordre du même ordre alimentaire. Alors, la science ne peut pas se prononcer sur Dieu, en tout cas, elle ne peut pas exclure, hein, l'existence de Dieu. Un quatrième point, qui me paraît important aussi dans ce domaine, c'est de souligner effectivement qu'il y ait des tensions, que le regard scientifique, la reconstruction scientifique et l'affirmation de la création, disons, décrivent des dimensions différentes et aussi, donc par moments peuvent être en tension, mais que cela n'est pas grave en soi. Alors, en tout cas, dans ma propre compréhension, au jour d'aujourd'hui, certaines difficultés subsistent. Je vous ai parlé tout à l'heure de la transition, hein, entre, disons, grand singe et homme. En tout cas, dans ma lecture de la Bible, on peut en débattre, dans ma lecture de la Bible, il y a bien un couple historique à l'origine de l'humanité, donc Adam et Ève. Je pense qu'il y a des arguments pour considérer qu'il s'agit vraiment de personnages historiques, et ce ne sont pas seulement des symboles de l'humanité, en particulier Romains 5, hein, qui parle d'un Adam individuel, hein, qui est le père de toute l'humanité. Et quand on regarde les données scientifiques aujourd'hui, on ne trouve pas ce couple unique. Donc on trouve quand même, à plusieurs, en tout cas à deux reprises, des groupes assez restreints, de quelques milliers d'individus, mais on ne trouve pas un couple. Hein. Donc dans les reconstructions génétiques, bon, maintenant je ne suis pas biologiste, je ne peux pas vous dire quelles valeurs ont ces reconstructions, mais je constate, hein, que l'image courante que la science me dresse est en tension avec l'image que je reçois de ma lecture biblique, sur l'origine de l'humanité. Sur un point qui ne touche pas l'essence même de la doctrine de la création, mais qui touche quand même un enseignement biblique à ce sujet. Il y a un autre aspect, c'est la distinction entre nature et péché, hein, dans la présentation biblique, et c'est vraiment un point qui me paraît très important. Le péché intervient après la création, et intervient par un choix responsable d'une liberté créée. Et là, la science, je veux dire, quand est-ce que la chute s'est passée, c'est difficile, je ne dis pas impossible, mais c'est difficile de la mettre quelque part dans les reconstructions des scientifiques. Et donc, une fois que j'ai reconnu ces difficultés, qu'est-ce que j'en fais? Alors, déjà, il semble important à souligner que la science est en évolution constante. Par exemple, pour rester avec l'origine de l'humanité, l'idée que l'humanité moderne est issue de l'Afrique est une idée qui a 20 ans, non pas plus. Donc, ça peut changer peut-être aussi. Hein, donc, il faut se rappeler, hein, que là, il y a quand même aussi donc des données d'évolution. Et un deuxième argument qui me paraît important, et d'ailleurs, cette deuxième considération me paraît importante d'ailleurs pour tout ce qu'on va dire ce week-end, et pour tout ce qui concerne l'argumentaire par rapport à la foi, c'est en fait que tout système en prise avec le réel connaît des tensions, seules les idéologies expliquent tout. Donc, alors là, je vais expliquer un peu. Si vous avez un système qui est implacable, qui vous donne des réponses à tout, vous êtes à peu près sûr que vous êtes face à une idéologie, hein, mais non pas à un système qui décrit réellement, hein, le monde tel qu'il est. Alors, on le rencontre sur un plan, on pourrait dire, disons peut-être même basique, hein, vous avez peut-être déjà discuté avec les intégristes, ce que nous appelons les intégristes ou les fondamentalistes, mais ils ont réponse à tout. Ils ont un système qui explique tout, en tout cas de leur point de vue. C'est sans faille. Mais souvent, c'est que c'est très simplifié et que ça ne prend pas en compte toute la complexité de la réalité. Il est même en science. Donc, si... Vous savez, quand on est étudiant, il faut faire certaines expériences, on est dans des travaux pratiques. Et après, donc, moi j'ai le souvenir, donc, l'assistant donc, devait coucher, je dirais, donc valider qu'on avait bien fait l'expérience. Et donc on dessinait les résultats, on faisait nos graphes, etc. Et je dirais, si jamais on avait donc, présenté des résultats expérimentaux parfaitement en accord avec les attentes théoriques, ça aurait été la meilleure preuve pour savoir qu'on n'avait pas fait l'expérience, mais qu'on avait simplement fait les calculs. Parce que vous avez toujours une marge d'erreur, ça ne tombe jamais pile sur, par exemple, sur la courbe qu'on veut trouver. Et donc, là, la science, donc je dirais, c'est justement la preuve qu'on a bien fait l'expérience avec toutes les imperfections, peut-être du débutant, de l'appareil, etc., qui fait aussi qu'il y a un écart entre l'explication théorique et la réalité. Donc, en soi, d'arriver à des points où nous devons dire, mais là, je ne sais pas, donc il y a une difficulté, je la reconnais, et je ne sais pas comment répondre, en soi, ce n'est pas inquiétant. Évidemment, si à chaque question, à chaque problème, on hausse les épaules et on dit, je ne sais pas, bon, là, ça devient plus embêtant. Mais en soi, il ne faut pas avoir peur des problèmes parce que c'est la meilleure preuve qu'on est en prise avec le réel. Alors, un dernier point qui sort là complètement de la problématique création-évolution, création-explication scientifique, c'est de se rendre compte que la création, en fait, est une vision du monde. Alors là, je fais un peu de publicité pour mon livre. Vous l'excuserez. Je vous donne là les têtes de chapitre de mon livre « Vivre dans un monde écrayé ». Et si je fais cela, alors oui, c'est la page pub, c'est la plage pub, mais c'est aussi parce qu'il me semble que c'est un thème négligé. Parce que justement, quand on dit le mot création, souvent, les gens, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait un peu jusque-là, on pense tout de suite, oui, mais comment est-ce que ça peut s'articuler avec l'évolution, avec les explications que proposent les scientifiques, etc. Mais ce n'est pas la première question qu'il faut se poser. La première question qu'il faut se poser, c'est de dire, mais si je crois que le monde est créé, qu'est-ce que ça change à ma vie ? Qu'est-ce que ça fait pour ma vie, pour mon existence, et de façon très concrète. Et une façon, je pense, de parler de la création, et de, peut-être pas de convaincre quelqu'un, mais de lui montrer que c'est intéressant de réfléchir à ce thème, c'est de lui montrer que la création donne une perspective sur la vie qui est intéressante, qui est plus riche, qui est plus riche que toutes les autres perspectives qu'on peut développer. Et donc, je vous ai mis les têtes de chapitre simplement pour vous donner une idée de la diversité des thèmes qu'on peut traiter à partir de la création. Je voudrais me concentrer dans les quelques minutes qui me restent sur un thème. J'aurais pu choisir d'autres, je prends pas tout à fait au hasard, mais donc je prends un thème qui correspond donc au cinquième. Donc la création, une vision du monde, recevoir l'existence comme un don. En fait, vous avez là une citation, alors je vais démarrer avec une citation d'un jésuite, Frederick Copleston, un dialogue avec le philosophe athée Bertrand Russell, justement sur la question de l'origine de ce qui existe. Et donc là, on va trouver cette réponse dont je vous ai parlé à la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, une façon de répondre, c'est de dire je refuse la question. Hein, donc ça, c'est donc le jésuite là, qui pose la question. Allez-vous dire que nous ne pouvons pas ou que nous ne devrions même pas soulever la question de l'existence de l'univers entier? Et donc Bertrand Russell, qui était un philosophe anglais, mathématicien, donc du premier siècle du 20e, de la première partie du 20e siècle, athée, et donc il répond: oui, je ne pense pas que cela ait le moindre sens. Et bien, alors en face, je vous remets la citation de Romains 1, qui dit: les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire son éternelle puissance et sa divinité, se voient depuis la création du monde, quand on réfléchit à ses œuvres. Donc là, vous avez la position opposée. Donc une fois, je dis, je ne pose pas la question. Et d'ailleurs, je crois que fondamentalement, c'est la position de la plupart de ceux qui sont agnostiques, athées, aujourd'hui en France. C'est pas qu'on a une alternative à l'idée de création, simplement on ne se pose pas la question. Soit par paresse, je pense que la plupart des gens, simplement par paresse, il faut peut-être les intellectuels, il faut les pousser un peu, les stimuler un peu. Et d'autres, parce que bon, ils ont réfléchi à cela, hein, ils sont arrivés à cette conclusion, mais donc ils ont choisi de ne pas poser la question. Donc, en quoi la réponse que donne la Bible est supérieure à ce refus de poser la question? Et alors, justement, je veux vous montrer les conséquences pratiques de ces deux positions. Et donc, pour illustration de la première position, je vous donne des extraits de Jean-Paul Sartre, La Nausée, qui justement adopte la même position que Bertrand Russell. Il dit ceci: l'essentiel, c'est la contingence. Alors, la contingence, c'est la non-nécessité. La première citation est assez philosophique, ça va devenir plus facile ensuite. Hein, si vous ne comprenez pas trop sur cette diapo, attendez la suite. Donc il écrit ceci, Jean-Paul Sartre: l'essentiel, c'est la contingence, donc ce qui n'est pas nécessaire. Je veux dire que par définition, l'existence n'est pas la nécessité. Exister, c'est être là, simplement. Les existants, donc ceux qui existent, hein, apparaissent, se laissent rencontrer, mais on ne peut pas les déduire. Il y a des gens, je crois, qui ont compris cela. Seulement, ils ont essayé de surmonter cette contingence en inventant un être nécessaire et cause de soi. Hein, donc, face à l'expérience du monde comme non nécessaire, hein, donc le monde pourrait être autrement, il pourrait ne pas être. Hein, donc, une réponse, la réponse traditionnelle, courante, était de dire: ce monde-là tient son existence d'un être nécessaire de Dieu. Or, continue Sartre, or aucun être nécessaire ne peut expliquer l'existence. La contingence n'est pas un faux semblant, une apparence qu'on peut dissiper. C'est l'absolu, par conséquence, la gratuité parfaite. Et maintenant vient la conséquence pratique. Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même. Quand il m'arrive, quand on s'en rend compte, ça vous tourne le cœur et tout se met à flotter. Voilà la nausée. D'ailleurs, je ne vous ai pas introduit la nausée. Je ne sais pas si vous l'avez lu, le livre. Donc, c'est un journal intime, fictif. Hein, donc, le héros, justement, dans ce livre, donc, expérimente le monde, hein, comme existant sans fondement, sans origine. Le monde est simplement là. Et d'où la nausée. Je n'avais pas, continue-t-il, je n'avais pas le droit d'exister. J'étais apparu par hasard. J'ai existé comme une pierre, une plante, un microbe. Ma vie pousse au petit bonheur et dans tous les sens. Ma vie n'a pas de sens parce qu'elle n'a pas d'origine. J'existe parce que je pense. Et je ne peux pas m'empêcher de penser. Hein, non, je n'existe pas parce que j'ai été créé, mais j'existe parce que je pense. Et je ne peux pas m'empêcher de penser. C'est moi qui me tire du néant auquel j'aspire. La haine, le dégoût d'exister, ce sont autant de manières de me faire exister, de m'enfoncer dans l'existence. Et alors, ma salive, mes secrets, mon corps est tiède. Je me sens fade. Mon canif est sur la table. Je l'ouvre. Pourquoi pas? De toute façon, ça changerait un peu. Je pose ma main gauche sur le bloc-notes et je m'envoie un bon coup de couteau dans la paume. Le geste était trop nerveux, la lame a glissé, la blessure est superficielle. Ça saigne. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a de changé? C'est la demi de 5 heures qui sonne, je me lève. Ma chemise froide se colle à ma chair. Je sors. Pourquoi ? Eh bien, parce que je n'ai pas non plus de raison pour ne pas le faire. Même si je reste, même si je me blottis en silence dans un coin, je ne m'oublierai pas. Je serai là, je pèserai sur le plancher. Je suis. Je trouve que Sartre est extrêmement honnête. Et il nous aide, je dirais, donc à cet égard, parce qu'il ne se fait pas d'illusions. La plupart des gens se font des illusions. En fait, ils continuent à vivre comme si la vie avait un sens, tout en refusant de poser ce sens en Dieu. Donc Sartre est extrêmement honnête à cet égard. D'ailleurs, intéressant, dans son autobiographie, il dit qu'il a eu une expérience de la présence de Dieu quand il a eu un enfant de 9 ans. Il a considéré que c'est une intrusion terrible. C'est comme ça qu'il écrit que Dieu n'avait pas le droit de venir dans sa vie. Et il lui a demandé de ne plus venir. C'est quand même intéressant de savoir cela. Mais donc, je trouve qu'il est extrêmement honnête dans les conséquences de son athéisme. Et je vais simplement, en conclusion, me mettre en face un extrait du petit catéchisme de Martin Luther. Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les créatures. Donc, explication donc, de l'affirmation « Je crois en Dieu le Créateur ». Il me donne et me conserve encore aujourd'hui un corps et une âme, des yeux, des oreilles et tous les membres, la raison et tous les sens. En outre, il me donne tous les jours et abondamment des vêtements et des chaussures, le manger et le boire, la maison et son train, une femme et des enfants, des champs, du bétail et tous les biens. Il me procure abondamment et chaque jour toutes les choses nécessaires à l'entretien et à la nourriture de ce corps et de cette vie. Il me protège de tous les dangers et me préserve de tout mal. Il fait tout cela par sa pure et divine bonté et sa miséricorde paternelle, sans aucun mérite de ma part et sans que j'en sois digne. Je dois, pour tout cela, lui rendre grâce et le louer, et en échange, le servir et lui obéir. Ceci, en toute certitude, est vrai. Martin Luther n'avait pas lu Sartre, bien entendu, mais après avoir lu Sartre, j'aurais envie de changer l'avant-dernière phrase. Luther écrit « Je dois pour tout cela lui rendre grâce et le louer, en échange de servir et lui obéir. » Seulement quand on a Sartre à l'oreille, on a plutôt envie de dire « Je peux pour tout cela. J'ai le privilège pour tout cela de lui rendre grâce et de le louer, en échange de servir et l'obéir. » Parce que reconnaître Dieu comme créateur, bien sûr, ça m'engage à l'action de grâce, ça m'engage au service, à l'obéissance, mais c'est la seule posture, c'est la seule attitude qui me permet de ne pas verser dans le non-sens, qui me protège de la nausée, qui me permet de mener une existence qui a du sens, qui a de la valeur. Évidemment, on pourrait dire, ça ne prouve pas que la création est vraie. Ça prouve en tout cas, ou ça montre, qu'il est très coûteux de refuser de croire au Dieu créateur. Alors, je vais m'arrêter là.